Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre carnet de région, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité régionale. C'est une émission produite et réalisée par des radios associatives et non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire de cette édition réalisée par Radio Grille Verte à Hadès, nous entendrons Marion Laribe lancer un appel en faveur de son père et de ses trois compagnons détenus comme otages depuis 1000 jours quelque part dans le Sahel. Nous irons en Lozère, où l'école de Saint-Sauveur de Père a reçu le nom d'une juste de France. Nous nous tiendrons informés des derniers rebondissements dans l'affaire du golfe de Saint-Hilaire-de-Bretmas dans le département du Gard. Enfin, nous ferons connaissance avec Olivier Jacob, le nouveau secrétaire général de la préfecture de l'Hérault.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Daniel Laribe, Thierry Doll, Marc Ferret et Pierre Legrand sont retenus depuis le 16 septembre 2010, quelque part dans le Sahel. Cela représente 1000 jours de détention pour ces otages. 1000 jours de détention qui sont autant de jours d'angoisse pour leur famille. Ce samedi 22 juin, les différents comités de soutien et l'association des otages d'Arlit manifesteront simultanément à Paris, Nantes, Nîmes, Orléans, Aix-en-Provence et Saint-Céré. À Nîmes seront présentes Françoise et Marion Laribe, respectivement épouse et fille du gardois Daniel Laribe. Au terme de presque 3 ans de détention de son père, Marion Laribe explique le sens de cette manifestation nationale de soutien aux otages.
Aujourd'hui, on a choisi de passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne la communication et puis la médiatisation.
Parce que vous avez l'impression que vous n'en avez pas fait suffisamment jusqu'à présent ?
Oui, mais jusqu'à présent, c'était un choix. C'était un choix délibéré, mais surtout raisonné. Il se trouve que cela va faire bientôt 3 ans que les otages sont otages et là, tous les arguments qu'on pouvait avoir avant pour choisir une médiatisation sobre aujourd'hui volent en éclats et on choisit plutôt de faire entendre notre voix.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ?
La durée de détention, elle n'a pas changé, elle s'allonge et ça devient insupportable.
Le gouvernement français n'agit pas assez ?
J'aurais beaucoup de mal à parler en ces termes, mais en tout cas, on a l'impression, on se sent aujourd'hui un peu abandonné par le gouvernement français et on a l'impression surtout qu'ils ont abandonné les otages. Oui.
L'intervention française au Mali a-t-elle changé pour vous la perspective de permettre à votre père et à ses trois compagnons de rentrer en France ?
L'intervention au Mali, oui, ça a été vraiment extrêmement anxiogène pour les 4 familles d'Arlit. Parce que les contacts qui avaient pu être noués jusque-là avec les ravisseurs ont été complètement anéantis. On a donc perdu le fil, en fait. On ne savait plus où étaient les otages, dans quelles conditions, sous l'égide de qui. Et tout contact semblait impossible.
Depuis cette intervention, est-ce que vous avez réussi, vous, à renouer des contacts, aussi minces soient-ils ?
Non.
Vous ne savez rien actuellement, Marion Laribe, de où se trouve, où pourrait se trouver votre père ?
Non, actuellement c'est le néant. Et c'est le néant et ça va faire 3 ans de détention bientôt. Oui, c'est plus qu'inquiétant. Là, ça devient invivable.
Pour rendre vivable cette situation, vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure, vous disiez.
Oui.
Et en particulier, ce samedi 22 juin, il y aura un ensemble de manifestations dans différentes villes de France, Paris, Nantes, Nîmes, Orléans, Aix-en-Provence, Saint-Céré.
Donc en fait, le 22 juin, à 11h, dans plusieurs villes de France, des grands rassemblements auront lieu. Le but, c'est de mobiliser un maximum de personnes pour montrer que l'opinion publique est extrêmement mobilisée sur ce sujet-là. C'est aussi pour se réunir et avoir une pensée tous ensemble pour les otages. Donc sur Nîmes, en fait, on va se rassembler à 11h sur l'esplanade. On va ensuite faire une petite marche silencieuse, une procession jusqu'au Conseil général. Au Conseil général, il y aura une succession de discours ou de textes pour les otages qui seront lus. Ensuite, on retournera sur l'esplanade pour un lâcher de colombes. Voilà. un symbole pour les quatre otages d'Arlit, mais aussi pour les autres otages français au Sahel.
Marion Laribe, vous venez de le dire, vous vous sentez plutôt abandonnée par le gouvernement français. Par contre, de nombreuses collectivités territoriales, par exemple là, le Conseil général du Gard, vous soutiennent. Et il y a de nombreuses mairies et de bâtiments officiels ont affiché la photo des quatre otages sur les façades.
Oui, il y a eu un élan de solidarité extraordinaire entre le Gard et l'Hérault. Alors, j'ai pas tenu les comptes récemment, mais je sais qu'il y a quelques semaines, il y avait plus de 50 banderoles qui avaient été apposées dans des mairies, des communautés de communes, des conseils généraux, entre le Gard et l'Hérault. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important. Moi, je sais que chaque matin, quand je vais au travail, je passe devant une banderole. Et voilà, ça me fait chaud au cœur. Je me dis qu'il y a d'autres gens qui passent devant cette banderole et qui pensent à eux.
Outre ces banderoles de soutien aux otages d'Arlit sur les bâtiments publics, une pétition circule sur Internet, bien sûr ouverte à tous, www.otageniger.fr. C'était un sujet proposé par Radio Grille Ouverte. Une école en Lozère reçoit le nom d'une juste de France. La municipalité de Saint-Sauveur-de-Père, petit village au centre du département de la Lozère, vient de renommer son école du nom d'Hélène Cordès. Cette juste de France, disparue il y a 2 ans, était une résistante lozérienne née en juin 1909 dans cette commune. Installée ensuite avec son mari comme instituteur à Marvejol, le couple Cordès entre très vite dans la résistance. Elle aide son mari à procurer de faux papiers d'identité et de ravitaillement aux réfractaires et aux résistants poursuivis. Elle garde dans sa famille un jeune juif de 11 ans et participe au ravitaillement de familles juives d'origine polonaise logées à Chirac. Enfin, elle héberge une résistante communiste allemande. Pour Michel Guiral, le maire de la commune, il est donc parfaitement naturel que le nom de cette institutrice et résistante soit donné aujourd'hui à l'école de Saint-Sauveur-de-Père.
Bien écoutez, quand on a une juste de France née dans notre commune un 29 juin 1909, qui a été résistante, je dirais... Ça va de soi que le conseil municipal, un an après son décès, est délibéré pour donner le nom de l'école publique. Hélène Cordès, qu'on va dévoiler tout à l'heure, cette inscription, voilà, c'est un moment à la fois d'émotion et qui nous replonge dans ce passé de notre pays qui est pas si loin et avec beaucoup de personnes qui ont connu la résistance et donc voilà, c'est un hommage à cette personne et puis transmettre en tout cas aux enfants qui fréquentent cet établissement scolaire puis aux adultes ils sauront qui était Hélène Cordès et je pense que ça s'inscrit dans le devoir de mémoire que nous devons.
Nicole Ginot, fille d'Hélène et d'Henri Cordès, était présente à la cérémonie.
Je pense qu'elle serait extrêmement surprise de voir que son nom va être attaché à une école et à une cérémonie où il y a pas mal de monde. Et elle serait à la fois surprise et sans doute très heureuse parce que l'école, ça a été l'essentiel de sa vie, l'enseignement. Mm-hmm. Elle a commencé à enseigner à 20 ans ou 21 ans. Elle a terminé à la fin de sa carrière dans les écoles maternelles. Et elle a toujours été passionnée par l'éducation. Donc pour elle, ça serait quelque chose de merveilleux de voir son nom attaché à une école. Elle a refusé que l'injustice de l'époque, l'injustice imposée par les nazis et par le régime de Vichy, s'attaque aux enfants juifs. Et donc, elle a contribué à aider des enfants juifs et des familles juives. En contribuant à cacher des enfants juifs, qui ont d'ailleurs mon âge, enfin certains, c'est eux qui ont fait le dossier pour quel est le titre de juste. Et ensuite, en nourrissant des familles d'adultes juives qui étaient dans la région de Chirac et qu'elle nourrissait en allant chercher chez les paysans. Enfin, c'était assez risqué sans doute, mais elle trouvait ça normal. Elle était très anti-nazie et anti-Vichy. Elle n'a jamais accepté de faire chanter « Maréchal, nous voilà » dans ses classes.
C'était un sujet de Ludovic Terol pour 48FM.
Carnet de région.
Hérault.
Gard.
Hérault. Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le projet de golf de Saint-Hilaire-de-Brethmas continue à faire débat dans l'agglomération alésienne. Au départ de cette idée, une zone d'aménagement différée où doit s'implanter un projet touristique avec un golf de 18 trous, un autre de 9, ainsi que plusieurs résidences touristiques, le tout sur près de 300 hectares. D'abord à l'initiative de Saint-Hilaire-de-Brethmasse, puis aujourd'hui de l'agglomération du Grand Adès, ce projet s'est attiré les foudres de l'association Saint-Hilaire Durable, qui dénonce la disparition de terres agricoles ainsi que la surconsommation d'eau que devrait, selon elle, engendrer ce projet. Une enquête d'utilité publique a été réalisée par 3 commissaires enquêteurs. Les conclusions sont tombées cette semaine et ont donné un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'utilité publique. Un résultat jugé logique pour l'association Saint-Hilaire Durable, qui tient toutefois à rappeler que cet avis est seulement consultatif. Désormais, c'est au préfet de statuer sur cette demande, comme le rappelle Béatrice Bernard-Chanson au micro de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
On a de sérieuses raisons de penser que le préfet donnera un avis favorable. Même si à la commission d'enquête, on a eu l'impression nette qu'ils avaient beaucoup de réticences. Parce qu'en fait, il faut savoir que le dossier a été très mal ficelé. L'étude d'impact, en fait, était truffée d'erreurs, d'approximations, de bizarreté, d'oubli. Et deux associations environnementales, donc, ont analysé l'étude d'impact. Et ont relevé toutes ces imperfections. Et donc l'ont consigné. Et rien que sur cette constatation-là, on ne peut que donner un avis défavorable parce que c'est truffé d'erreurs. D'ailleurs que déjà, pour étudier une zone d'impact comme ça, il faudrait plusieurs mois. Elle a été faite en 15 jours. Et pas sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont extrêmement fragiles où ils n'ont pas mis les pieds. On pense que ils ont reçu un appel d'offres avec telle somme, une enveloppe, et ils ont fait avec. Ils ont par exemple fait des copier-coller ahurissants en parlant d'un ruisseau qui se situe à Montpellier, l'Aliéronde. Je ne sais pas si vous connaissez l'Aliéronde, on y paraît que c'est connu. Sur la région de Montpellier, qui ne figure pas là. Donc il y a eu toutes sortes d'aberrations. Donc là-dessus, ça serait pour nous, rien que là-dessus, ça nous paraît complètement aberrant, quoi. Donc ou on refait une étude d'impact digne de ce nom, ou alors on prononce pas l'utilité publique. Après le préfet, on pense que d'ici l'été,
il fera vite aussi.
Il fera vite et on aura 2 mois pour le contester. Dans tous les cas, on attaquera le DUP.
L'association Saint-Hilaire Durable, qui entend maintenir la pression sur le préfet du Gard, organise une réunion d'information ce mercredi 26 juin à la Jasse de Bernard, à Saint-Hilaire-de-Brethmasse. C'était un reportage de Radio Escapade. Chaise musicale à la préfecture de l'Hérault. Alain Rousseau, qui était secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a été nommé en Corse. Il est remplacé par Olivier Jacob, ancien secrétaire général de la préfecture du Calvados. Âgé de 43 ans, Olivier Jacob est diplômé de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, de l'Institut d'études politiques et de l'Université de Oregon aux États-Unis. La fonction de secrétaire général de préfecture se double d'un second titre, celui de sous-préfet. Une précision apportée par Olivier Jacob à Liliane Drey de Radio Aviva lors de sa prise de fonction ce lundi 17 juin.
Je trouve que, au-delà de la fonction de secrétaire général, qui est une fonction très administrative, de suppléant du préfet, de coordonnateur des politiques publiques de l'État, il y a un titre qui pour moi est très, très joli et qui parle à tout le monde d'ailleurs, c'est sous-préfet d'arrondissement, et notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, ici dans l'Hérault. Je suis sûr que les gens connaissent le sous-préfet de Béziers, ou en tout cas savent qu'il y a une sous-préfet à Béziers ou à Lodève. Plus rarement, l'on sait qu'il y a un sous-préfet dans l'arrondissement, et ça c'est un titre, mais au-delà du titre, surtout une fonction à laquelle je suis très attaché, parce qu'elle devrait me permettre d'être en relation avec les élus, les acteurs économiques et sociaux de l'arrondissement en particulier.
Parmi tous les dossiers que vous avez dû trouver sur votre bureau, est-ce qu'il y en a qui sont plus préoccupants que d'autres ?
Il y a de nombreux dossiers que j'ai trouvés sur mon bureau. Alors, arrivant aujourd'hui, vous me pardonnerez de ne pas les évoquer, mais ce qui marque, comme je le disais tout à l'heure, peut-être plus que tout, c'est la formidable croissance démographique de ce département de l'Hérault, très attractif, je crois 15 000 habitants de plus par an, et ce qui a des conséquences forcément sur plein de domaines, en termes d'habitat, de logement, en termes de protection de l'environnement, en termes d'occupation du littoral, de cohésion sociale, de développement économique. Je crois que c'est un trait très frappant du département de l'Hérault, mais en même temps, avec cette croissance démographique, c'est beaucoup de défis à relever, mais c'est surtout un très gros avantage, me semble-t-il, pour un département comme le vôtre.
C'était un sujet de Radio Aviva et réalisé par Liliane Drey. Ce carnet de région se referme pour cette semaine. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives et non commerciales du Languedoc-Roussillon. Merci à toutes les radios qui en ont permis la réalisation. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Nous nous donnons rendez-vous, même lieu, même heure, la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.